Ah non, non, c'est pas grave.
Ah bah déjà, au bout, on n'a même pas la possibilité de faire demi-tour.
Oui, c'est ça.
J'ai été embêté tout à l'heure. Bah oui, il y a des gens qui se garent mal.
Quand on rentre, c'est compliqué.
Ah, c'est très compliqué.
Alors là, donc j'ai commencé ce nouveau cycle un petit peu avec des stades et puis des arrêts. De façon, alors j'ai quand même fait en sorte que ça couvre une sorte de logique sur l'évolution des pratiques artistiques. Et puis je vous avais dit notamment, plus on cherche maintenant, on s'ouvre un petit peu au niveau intellectuel, culturel et des références, on découvre d'abord des civilisations qui étaient un petit peu oubliées, des thèmes qui étaient, eux là, des thèmes qui étaient un petit peu aussi négligés. Une problématique, par exemple, que je trouve intéressante et qui ressurgit, et c'est d'ailleurs le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est la question de la représentation féminine ou faite par des femmes, qui dans l'histoire de l'art, et puis aussi c'est de se dégager progressivement d'une sorte d'histoire de l'art d'abord européano-centriste, qui a été établie au 18e, surtout au 19e siècle, au 20e siècle, et en gros, presque tout commence en Égypte, et puis il y a la Grèce, et puis il y a Rome, et puis il y a la Renaissance, l'art médiéval chrétien, etc. Parce que moi, j'ai souvent fonctionné comme ça aussi. Mais il faut aller voir aussi ailleurs, et peut-être comprendre aussi ce qui est un héritage grec et biblique, est très marqué historiquement, et parfois pas de la meilleure manière. Notamment, par exemple, sur la question féminine, et de la puissance féminine. La moitié de l'humanité a été... Donc c'est ce qu'on va voir dans les 3 ou 4 premiers chapitres, globalement écarté de l'humanité, de la représentation, de façon assez systématique. Alors, je caricature un petit peu, une bonne partie de ce que je vais montrer repose quand même sur des hypothèses, parce que l'état des recherches est assez confus, et il y a une région en tout cas qui est assez impressionnante, du point de vue des nouvelles recherches archéologiques, bah c'est la Turquie, actuelle, et puis la Syrie actuelle. Là, par exemple, ce que l'on va voir aujourd'hui, Chatal de Louk, je ne sais pas si je prononce bien, c'est ici. Hein. Et vous allez aussi avoir Göbekli Tepe, qui se trouve par ici, à peu près. Hein. Et puis, vous avez aussi Haim, comment ça s'appelle, par ici. Hein. Et vous avez donc des recherches qui se développent de plus en plus dans ces régions-là. Alors, pour des raisons diverses, ce n'était pas tellement fouillé. Où ça avait été abandonné au début, à la fin du 19e siècle, plus la tradition islamique n'était pas très intéressée par tout ce qui était pré-islamique, soit de la manière caricaturale et la pire qui soit actuellement en Syrie, par exemple, où on va détruire les antiquités romaines, mais il y a des antiquités bien, bien plus anciennes, et en plus qui remettent en cause certaines catégories sur ce qui est l'histoire de l'humanité, notamment sur les catégories... du paléolithique, du néolithique, du mésolithique, les catégories y compris sur les chasseurs-cueilleurs, les pastoriens, les pastoralistes, les pastoraliens et l'agriculture. Et vous allez voir qu'il y a des choses aussi qui sont assez étonnantes. Et il y a des recherches, mais très récentes, hein, ça a 5-10 ans à peine. Enfin, on est en train de trouver des pièces et des chefs-d'œuvre stupéfiants, notamment à Çatalhöyük et puis aussi à Göbekli Tepe. J'écrirai les... Oui, 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 alors, vous inquiétez pas, voilà. Alors, voilà, donc, ceci. Alors, le Göbekli Çatalhöyük, alors ça s'écrit C-C-D-A-T-A-L, C-C-D-A-T-A-L, hein, c'est, hop là, c'est écrit là, au-dessus, Çatalhöyük, H-U-T-R-E-M-A-Y-U-T-R-E-M-A-K, alors je ne sais pas si c'est Uyuk ou Uyuk, hein. Çatal, par contre c'est Çatal. Ça, c'est une région plus générale. Alors, on n'est pas tellement étonné de voir entre le Tigre et l'Euphrate, croissant fertile, etc., naissance de... Mais souvent, on avait associé ça aux premières grandes cités babyloniennes, etc., etc. Et on va voir des choses beaucoup, beaucoup plus anciennes. Autre chose, en France, on est très fiers, et bon, on y est pour rien, mais on est content d'avoir des vestiges très anciens dus, effectivement, des grottes ornées, qui sont effectivement très, très anciennes, mais qui correspondent à un certain type d'humanité avec effectivement des chasseurs-cueilleurs, on va dire, purs. On avait déjà vu l'année dernière, quand on avait vu la question de l'espace, il y a 2 ans, comment est-ce qu'en même temps ces chasseurs-cueilleurs nomades avaient des points de repère, notamment les rivières, et donc vraisemblablement se retrouvaient quand même de temps en temps, ne serait-ce que dans les grottes, pour aller marquer des épisodes de leur vie collective ou commune. Et là, on va voir qu'on va retrouver des choses du même genre. Alors, Chataliguc, c'est un site quand même qui est assez stupéfiant. Il date à peu près de 9000 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près 11 000 ans, hein, contemporain. Et alors maintenant, c'est un site classé au patrimoine, hein, et là, ce sont les verrières, et on a découvert en fait un village assez important, mais qui date effectivement du néolithique. C'est plus ancien que Stonehenge, c'est plus ancien que les pyramides, c'est plus ancien même que, on disait, Jéricho, qui avait 8000 ans à peu près. Hein, donc vous avez ici un village dont on a trouvé effectivement une multitude de pièces. Alors, qui ressemble un peu au Pueblo mexicain, on rentre par le sommet, hein, il y a peu de fenêtres, etc., extérieures, il y a des greniers, etc., mais ce qui est assez exceptionnel, d'abord, c'est la durée de ce village, ça dure sur plusieurs siècles, voire millénaires, et ce qui va être aussi assez surprenant, eh bien, c'est ce qu'on y trouve, hein, notamment une des pièces qui est la plus stupéfiante, c'est celle-ci que vous avez ici redessinée, hein, une salle, avec effectivement des têtes d'oraux sauvages assez gigantesques. Ici, des vautours avec des personnages, une peinture sur les murs. Hein, et on y reviendra tout à l'heure. Alors voilà une reconstitution d'une pièce telle qu'on a trouvée. Alors on a trouvé assez d'éléments pour la reconstituer de façon très raisonnable. Il n'y a pas du tout, là on est dans une archéologie quand même très récente. Hein, donc on n'est pas dans l'espèce de romantisme qu'il pouvait y avoir avant, où on imaginait des tumulus avec tout ce que l'on veut. Là, vous avez des éléments qui sont très précis, et évidemment, ce qui se voit le plus ici, c'est la référence au bovidé et à l'auroch sauvage, alors l'auroch sauvage ou domestiqué, etc. Et puis des peintures ici murales, hein, qui sont intéressantes, la peau de bête a été rajoutée. Alors, voilà aussi une autre des pièces retrouvées, qui est quand même assez impressionnante, hein, qui n'est pas un temple, hein, ce n'est pas un temple, ça n'a jamais été vu comme un temple, mais ici, comme une pièce sans doute d'habitation de région, avec encore une multitude de têtes et de cornes de bovins, hein, et avec des fragments, alors ici reconstitués, de peintures murales, qui sans doute datent aussi d'anciennes époques, hein, peut-être plus anciennes encore, hein, puisqu'il y a des styles différents, donc on va retrouver sur le même site des styles différents. Et puis, voilà, donc, reconstitution des têtes trouvées. Voilà certaines peintures retrouvées également, dans lesquelles vous avez ici un cervidé, avec des représentations humaines, hein, avec cervidé et d'autres animaux, avec des arcs, etc. Donc on est un peu dans la chasse, mais on va voir que c'est un petit peu différent. Et voilà aussi une peinture retrouvée, alors là, c'est pas une reconstitution, elle est retrouvée telle qu'elle, avec un énorme, un gigantesque taureau, hein, avec des silhouettes humaines, diverses, et même des chevaux, et on devine aussi des chiens, hein, on va voir ça, les chiens c'est important aussi, parce qu'on est dans la phase, en fait, si vous voulez, de domestication de l'animalité. D'abord, les chiens, parmi les plus anciens, il y a des sites entiers consacrés d'ailleurs à la représentation des chiens dans les peintures préhistoriques, pour voir à partir de quand est-ce qu'on peut imaginer une domestication. Hein, la domestication étant liée quand même à la chasse, mais pas que la chasse évidemment, mais aussi le gardiennage de troupeaux. C'est-à-dire que vous avez avec le chien aussi l'idée qu'on commence à avoir des troupeaux qu'on contrôle à peu près. Hein, c'est pas donc on n'est plus en train de chasser des troupeaux comme ça qui s'enfuiraient à tout bout de champ, on est dans un contrôle relatif. Alors, pour vous rappeler de ce qu'on appelait justement d'une manière générale la période justement du bovidien. Alors, c'est récent comme appellation. On trouve, si vous cherchez, même il y a très peu, même à Wikipédia, etc., ça va, c'est discuté. C'est une sorte d'angle mort un petit peu de l'archéologie. Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste, mais ça me fascine assez parce que il y a des peintures rupestres. Alors, que ça soit dans le Tassili, que ça soit en Afrique du Sud, où on va le voir justement dans cette période-là, on pense que Chataliguc, c'est peut-être une des dernières périodes bovidiennes, en gros, avant l'agriculture, si vous voulez. En gros. Ce qu'on appelle le bovidien, mais c'est une zone qui était une zone un peu neutre, parce que pendant longtemps, et même si vous écoutez encore des reportages, vous entendez parler des chasseurs-cueilleurs, et ensuite de l'agriculture. Mais on met de côté une part entière qui est vraisemblablement très intéressante à différents degrés, hein, au niveau de l'art, et y compris au niveau des types de sociétés, c'est que ce qu'on appelle le bovidien, alors il peut porter d'autres noms, Eh bien, on n'est plus dans l'espèce de fascination pour une animal, des animaux sauvages, fantastiques, magiques et mystérieux qu'on pouvait peindre dans des grottes. Là, vous avez donc des animaux qui sont représentés, alors que ce soit en Turquie ou que ce soit dans le Tassilite ici, avec des humains qui sont représentés de façon assez naturaliste, qui ne sont pas en mouvement et en déplacement de façon un peu magique et toute puissante comme dans les peintures rupestres plus anciennes. Et là, au contraire, on a un accompagnement très clair avec des silhouettes féminines, enfants, masculines, etc. Tout type de silhouettes qu'on va retrouver avec eux. Alors ça, c'est dans le Drakensberg. Ça, c'est dans le Tassili, avec une femme en train de coudre des peaux, etc. Les tresses, la représentation féminine. Ça, ce sont aussi des peintures du Tassili qui datent de la même époque, hein, donc à peu près vers 9000-8000. Et là, vous avez d'ailleurs, chose assez intéressante, ici une femme, on voit les seins, en train d'armer un arc, hein, y compris, là, on fait de représentations un peu mythiques, justement, des déesses chasseresses qui vont dompter les animaux sauvages, etc. Il y a quelque chose qui est assez clair ici d'activité humaine différente. Alors, voilà notamment la fameuse sculpture de Chataljuk, qui, d'abord, qui est très connue maintenant, hein, enfin, qui commence à être très connue, et qui est vraisemblablement au croisement de très 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 anciens mythes féminins. Alors, on pourrait presque parler d'une sorte de monothéisme féminin. Hein. Et là, vous avez aussi une figure féminine, trônante, hein, avec un trône à tête de lion, et qui était aussi donc une des figures récurrentes à Chataljuk, dans un domaine justement du bovidien. On a vu l'hommage rendu aux bovins, etc. Alors cette figure, pourquoi elle est intéressante au croisement? Parce que, voilà, alors d'abord elle n'est pas toute seule, il y en a plusieurs, à Chataljuk on a trouvé plusieurs, hein, là encore avec un trône constitué d'animaux cette fois-ci sauvages, hein, avec une femme opulente, alors comme dans la tradition de beaucoup de Vénus anciennes. Voilà une, mais trouvée voilà quelques mois, toujours, à Chataljuk, hein, donc ça aussi, c'est des choses très récentes. Et voilà d'autres versions. Hein. Donc on voit, il y a vraiment un style, un type de récurrent de ces figures-là. Et voilà, profil. Alors, les variations montrent que c'est adopté, répandu dans toute la région. Et je voulais vous montrer quand même, justement, pourquoi est-ce que ça devient et comment est-ce que c'est intéressant en termes, on va dire, peut-être historiques. Alors, ce sont un peu des hypothèses, mais tout de même, les figures féminines, ce qu'on appelait les déesses mères, un petit peu, alors, très variées. D'abord, ça concerne à peu près toute l'Europe, le Proche-Orient, le Turkestan, ça va jusqu'en Sibérie. C'est la répartition de ces figures jusqu'effectivement tout ce qu'on appelle les Vénus préhistoriques, etc. Donc on voit, ce sont les seules sculptures que l'on trouve, et là c'est sans doute la plus ancienne, qui serait de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, qui n'est pas, mais qui est une Vénus aussi en pierre, hein, trouvée. Alors, il y a eu des hypothèses, certains s'est dit ce sont des poupées, ce sont des objets, etc., divers et variés. Toujours est-il que les seules sculptures, si vous voulez, de ronde-bosse que l'on trouve sont des sculptures féminines. Parce qu'on va trouver peut-être, on pourrait trouver peut-être des gravures, et puis il y aura des symboles phalliques par-ci par-là, etc. Mais en tout cas, en termes de statuettes, les seules que l'on trouve, pendant des étalées sur des millénaires, ce sont des silhouettes féminines. Alors, j'ai retrouvé sur Internet des tableaux un peu synoptiques, alors empiriques, hein. Attendez, ça c'est pas le premier. Voilà. Dans lesquels on va trouver, par exemple, une sorte de recensement de toutes les figures. Alors là, préhistorique paléolithique, c'est-à-dire à peu près entre 30 000 et 15 000, en gros de 30 000 jusqu'à Lascaux. Hein. Eh bien, on va trouver effectivement réparti à peu près sur une bonne partie du globe, et si on cherche, je pense qu'on trouvera, on trouverait sans doute encore ces figures féminines qui évoluent. Hein. Là, vous avez effectivement, là on voit donc à partir de 10 000, on arrive 8 000, etc., on arrive à Chataljuk ici. Et avec différentes occurrences, mais très très proches. Donc, ce n'est pas un cas isolé, si vous voulez, Chataljuk, évidemment, ce n'est pas juste une sorte d'hérésie, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut rattacher ça aussi au bovidien, notamment? Et on va le voir assez souvent, la différence, justement, de tout ce qui va se passer ensuite, avec la conquête des terres, avec la maîtrise de l'agriculture, eh bien, d'une manière générale, que ce soit les chasseurs-cueilleurs ou que ce soit ceux qui font du pastoralisme, eh bien, ne possèdent pas. On ne possède rien, en fait. Donc, il n'y a pas de possession du vivant. On accompagne le vivant, on en avait déjà parlé quand on a vu le territoire, mais on accompagne le vivant. Alors après, il y a une domestication, il y a une sorte d'accommodation, on va dire, avec y compris des figures chez les bovins où la personne qui est la plus importante pour un troupeau, ça va être aussi le mammifère, donc qui va aussi fournir le lait, la croissance, le troupeau, ça va être aussi les enfants. Alors que pour la chasse, mais c'est pas grave, l'élément du troupeau qui réussissait à piéger le plus faible, mais ce n'était pas forcément du tout, ça pouvait être un jeune, ce n'est pas forcément ni une mère, etc. Tandis qu'avec le développement du pastoralisme, là, on va trouver quand même une fortification beaucoup plus grande de l'idée de la maternité, de l'allaitement, du principe même mammifère, etc. Et puis, vous avez effectivement cette idée de dompter l'animalité, de la domestiquer. Alors on peut peut-être imaginer que le trône, avec les animaux sauvages domptés, sont aussi effectivement une sorte de figure du fait de domestiquer l'animalité, domestiquer et apprivoiser. Domestiquer, apprivoiser, c'est quelque chose que l'on voit assez clairement dans l'émergence et la... Parce que vous voyez, toutes ces figures-là sont des figures, on va dire... Alors on a pensé des déesses mères, des déesses de la fertilité, des déesses on ne sait pas quoi, ou de terre, de la vie. Et puis avec Châtelieu, vous avez l'idée du trône, qui effectivement veut s'instaurer cette fois-ci. Alors, s'instaurer sur le trône et être assise, comme on va le voir aussi dans les figures suivantes, être assise, c'est aussi cette fois-ci l'idée de s'instituer quelque part. Et parce qu'avec le pastoralisme, on va avoir quand même aussi, et on va le voir, un ancrage, en fait, qui va se faire progressif. Un ancrage progressif avec les troupeaux, avec le parquage même de certains troupeaux qu'on va parquer. Et puis ensuite, il y aura évidemment le fait de les protéger. Ensuite, la propriété va arriver, protéger du vol, protéger des éléments extérieurs, etc. Et puis ensuite, peut-être nourrir agriculture pour nourrir le troupeau et nourrir les autres, etc. Donc, mais le pastoralisme a plusieurs figures. Parce qu'il peut y avoir des pastoralismes nomades, avec, effectivement, selon les saisons, on va suivre des troupeaux qui se déplacent, ou au contraire, ça peut être constitué de vrais troupeaux d'élevage, mais c'est certainement assez lent. Alors, ce qui remet aussi un petit peu en cause cette espèce de vision qui était assez stéréotypée, mais qui est en train d'être remise en cause sur les mouvements de population et sur la sédentarité, c'est aussi des recherches qui viennent d'être faites et qui sont très récentes aussi à Göbekli Tepe. Alors, Göbekli Tepe, ça s'écrit G-O-B-E-K-L-I, T-P-T-E-P-E. C'est-à-dire le nombril du monde. Alors, attendez, le nombril du monde, c'est toujours en Turquie, je vous l'ai dit, presque à la frontière syrienne actuelle. Alors évidemment, les fouilles ont redémarré, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ça s'était interrompu, repris, etc. Et c'est un site, alors là, complètement stupéfiant, qui est plus ancien que Châtelloyuc, parce que Châtelloyuc, c'est à peu près 9-8 000 ans avant notre ère, et Göbekli Tepe, c'est carrément, on compte à peu près peut-être 12 000 ans, à peu près 12-13 000 ans, etc. Donc c'est quelque chose qui est encore plus ancien. Et ce qui est assez stupéfiant, alors là je vous présente certaines... Alors ça c'est le site, il est en train d'être fouillé actuellement, il n'est pas du tout... C'est qu'il est très vaste. Ce que vous voyez par exemple ici, une couronne de monolithes, alors ce sont des monolithes, donc une seule pierre taillée, poncée, polie, dressée en cercle, on va voir. Et en fait, ce que vous voyez ici, alors ça dépend de la hauteur, c'est peut-être que... une des dernières couronnes de monolithes qui sont construites sous d'autres couronnes de monolithes qui étaient enterrées et qui étaient plus hautes en dessous. Et en gros, il y a presque 3 étages, voire 4, de couronnes successives de monolithes comme ça, qui sont construites les unes sur les autres. Jusqu'à faire des collines, ensuite, alors on ne sait pas pourquoi elles ont été abandonnées, mais elles ont été entièrement recouvertes, systématiquement, reconstruites, alors, un lien à la mort, etc. Toujours est-il que ce qui est évident dans ce site de Göbekli Tepe, alors là, vous avez 4 couronnes, mais en fait, on en a démontré à peu près 16, sachant que chacune est souvent faite de plusieurs couches. voulez, ça veut dire que, or, on est bien, bien, bien avant ce qu'on dit l'agriculture. On est presque 10 000 ans avant ce qu'on pense être, enfin 10 000 ans peut-être pas, mais 5, 6 000 ans avant ce qu'on pense être les premières grandes cités agricoles avec donc l'établissement d'une agriculture pérenne. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'en général, on associe à ce type de cité, alors, il y a aussi une chose, c'est que ce ne sont pas des habitats. Pas des habitats, ce sont essentiellement donc uniquement des lieux de rencontre. Des lieux de rencontre, des lieux de rencontre. Alors, donc, voilà une représentation ici qui n'est pas inintéressante, hein, dont on voit alors une couronne en train d'être construite, ici, une ancienne, alors peut-être qu'il y en avait une en dessous. Alors, ce que disent les archéologues, c'est que plus on monte, plus les colonnes sont petites. Les premiers monuments ici font pas loin de 9 mètres à peu près, hein, alors qu'il faut les enterrer, etc. Et puis les derniers font presque la moitié. Donc les tout derniers sont presque à échelle humaine. Donc on voit qu'il y a une sorte de réduction. Alors, ce qui est assez stupéfiant aussi, d'abord on voit que ce ne sont pas des habitations. Il y a une structure circulaire quasiment tout de suite, toujours, avec concentrique même, avec une allée et une entrée. Hein, alors voilà, vous voyez ce que je vous dis, les fouilles sont assez complexes parce qu'on ne sait pas très bien où. Alors là, vous avez un gros plan sur certains monolithes qu'on va voir tout à l'heure. Alors voilà encore une autre image de ce que ça pouvait être. Voilà le site, zut, en gros. Actuellement, c'est très très chaud, effectivement. C'est hallucinant, d'ailleurs, c'est effroyable de se dire que ces idiots, ils détruisent Palmyre, mais il faut qu'ils continuent parce que. C'est plus ancien que ça, la culture. Et l'occupation humaine, les Romains, c'est quasiment avant-hier, hein, l'implantation romaine. Parce que si on veut remonter dans le pré-islamique, il va falloir aller très, 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 très loin. Et on se rend compte qu'il y a, et en même temps, c'est une richesse prodigieuse. Et ensuite, à découvrir aussi. On se rend compte que. Alors là où c'est stupéfiant, c'est de se dire effectivement, vous aviez des peuples, d'abord assez nombreux quand même, pour faire ça. Hein, et. Qui bien qu'étant vraisemblablement, alors, ils disent encore chasseurs-cueilleurs ou gardiens de troupeaux, on va dire, hein, éleveurs ou hein, accompagnateurs de troupeaux, parce que c'est peut-être ça aussi dans un premier temps, n'empêche qu'ils se rencontraient régulièrement. Ils se rencontraient régulièrement, ils avaient besoin de repères fixes dans ce territoire-là. Alors, ce qui commence à émerger comme interprétation, c'est que, si vous voulez, chaque monolithe serait peut-être une sorte de totem. Ils ont tous des signes très différents, y compris de styles différents. Des styles différents, donc voilà quelques exemples. Des styles, alors ça, je vous dis, ça a plus de 10 000 ans, hein, c'est, non, 12 000 ans. Hein, c'est, en fait, c'est plus proche de Lascaux, hein, presque que de Châtelet-Duc, parce qu'on est presque dans, vous dites, 10 000 avant notre ère, hein, 12 000 ans à peu près. Hein. Et vous avez donc ces stèles qui sont avec des représentations animales très variées, comme par exemple ici une sorte de léopard. Ici, des animaux complexes avec des scorpions, des animaux, des éléments figuratifs. Là, vous avez un singe quasiment en bas-relief prodigieux, avec des colliers, etc. Comment ?
Avec quels instruments ils faisaient ces
graves ? Alors ça, ils ont essayé, comme c'est une pierre assez tendre, ils ont essayé de reconstituer, hein, il y a une petite vidéo, ils vont en train de reconstituer, avec une pierre plus dure, et avec du silex.
Ils ont trouvé des outils
Oui, du silex, ils ont trouvé du silex, et le silex bien tranchant, toc, 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 toc.
C'est très poli, quand même.
Oui, c'est pas très... Comme c'est une pierre assez tendre, hein, il y a des plateaux entiers de calcaire comme ça, ils ont même vu... Il y a sur le site, on voit un monolithe qui n'est même pas encore découpé. Enfin, qui est découpé, mais qui n'a pas été taillé par en dessous et pas transporté. Donc, qui est en préparation. Donc, c'est quelque chose... Et ils ont essayé de le transporter. C'est pas complètement délirant au niveau technique. Hein, soit avec des rondins ou avec des systèmes de... On fait ripper avec les leviers. Ça se fait assez bien. Ils sont calés sur des pièces, des bases, à la base, etc. Ce qui... serait, alors là vous avez un sanglier, hein, etc. Ils sont très très variés. Là encore un éléphant. Alors là, les animaux ne sont pas du tout des animaux d'élevage, parce qu'on voit des scorpions, des trucs comme ça, des sangliers, etc. C'est sans doute peut-être justement une réminiscence de totems, hein, comme si c'était des animaux totémiques, mais peut-être de tribus qui se rencontrent. Alors est-ce que c'est pour se partager les territoires ou pour. Bref, on ne sait pas. Toujours est-il que c'est vraisemblablement une sorte de rencontre, un lieu de rencontre de tribus. Alors, pourquoi est-ce qu'au bout d'un certain temps, ils abandonnent le lieu enfin, il n'abandonne pas, il le bouche et il reconstruit au-dessus. On ne sait pas. Au niveau sépulture, ils ne sont pas sûrs que ce soit un site de sépulture. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais c'est en tout cas assez prodigieux, parce qu'au niveau des figures, on voit la diversité. Au niveau, ça remet en cause tout ce qu'on connaissait sur la sédentarisation, ou pas, de certains peuples. Ce qui nous fait revisiter complètement, y compris, si on regarde les grottes de Lascaux, etc., on peut très bien imaginer que c'est le même rôle. Avec peut-être un lieu de rencontre, avec des tribus qui vont se rencontrer dans ces endroits-là, puis qui vont marquer le lieu, etc. Jouerait-il que l'idée qu'il y ait des lieux fixes, ou des lieux sacrés, ou des lieux de rencontre pour des peuples nomades, mais qui se considèrent quand même aussi comme faisant partie d'un peuple plus vaste. C'est assez intéressant. Donc, il y a quand même...
Je n'ai pas compris pourquoi vous dites que c'est un lieu de rencontre, que ce ne soit pas un habitat, on ne trouve pas de reste. Oui.
Ben sans doute de rencontres rituelles, quoi.
Ah oui, c'est ça.
De rencontres rituelles, comme par exemple ici.
Comme un temple.
Alors, comme un temple, mais sans religion particulière. Parce qu'il n'y a pas de religion dédiée. C'est un, pour le moment, on a, c'est pour ça que, il y a, même au niveau des interprétations des thèmes, certains disent que c'est le premier temple du monde. Voilà. Mais c'est un peu, c'est quand même une fonction sacrée. Puisque c'est peut-être alors. Certains ont même été interprétés, alors j'ai vu des trucs sur les animaux représentés et les constellations. C'est pas absurde, parce que la construction en cercle et les animaux dans les étoiles, etc. Bon, on voit ça déjà, on voit ça ensuite en Égypte, donc les Égyptiens n'ont pas inventé ça de but en blanc. Ça s'est fait quand même, il devait y avoir une très très. Sans doute, la plus vieille tradition, c'est aussi de regarder les étoiles pour se repérer. Donc c'est pas absurde non plus. La construction en cercle aussi. Alors on peut très bien imaginer que c'est une période de l'année. Les tribus se retrouvent et puis se répartissent les trucs ou s'échangent, enfin bref. Mais c'est assez intéressant, ça veut dire que un peuple qui va faire donc cet élevage-là ou de la chasse, eh bien, négocie quand même avec d'autres et font partie d'une même culture. Hein, donc c'est assez émouvant. Alors, autre chose que... Alors c'est bête parce que j'ai pas retrouvé la figure. Attendez. Voilà. C'est que dans... Il y a une des stèles qu'on ne voit pas ici, mais qui est assez intéressante parce que c'est un grand T comme ça. Et en fait, le haut du T, si vous voulez, c'est peut-être un signe d'une tête. Et en fait, sur le long, vous avez deux bras qui ensuite viennent devant, par devant la stèle ici, et se rejoignent par devant avec une ceinture. Donc en fait, c'est pour ça qu'on pense que le symbole de ce T, ce sont des têtes et des gens qui se font face, qui font une sorte de une table ronde, hein. Se font face avec des figures comme ça. Alors, ce qui vient corroborer cette histoire, c'est la plus ancienne figure, sculpture humaine retrouvée tout le temps, sculptée, hein, cette fois-ci très clairement, figure humaine masculine. Hein. C'est à Urfa, qui est aussi pas très loin. Hein. Urfa, attendez. Urfa, je crois qu'on voit ça dans cette... Alors, j'ai du mal à trouver des bons documents. En français, il n'y a presque rien. Là, oui, c'est en je sais pas quoi. Je crois que c'est en turc. Je connais pas le turc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Donc, vous avez cette figure qui date de 13500, à peu près, avant notre ère. Donc, c'est aussi très, très ancien. C'est quasiment contemporain de Lascaux. Hein. Et elle a aussi cette position. Aussi cette position, alors c'est la seule qu'on ait retrouvée. Est-ce que c'est son sexe qu'elle tient ou une ceinture, etc. On ne sait pas. Faudrait-il qu'elle est, c'est une figure évidemment anthropomorphe, à échelle humaine en plus. Donc, voilà. Alors, voilà des pistes possibles, mais qui en tout cas sont assez stupéfiantes. Alors, je vous dis, c'est tout frais. Il y a plein d'interprétations, il y a plein de trucs comme ça. Ils sont en train de fouiller. Hein, et vraisemblablement, encore, il y a beaucoup de choses. Mais, toujours est-il que toutes les catégories sur lesquelles on reposait jusqu'à présent semblent vraiment brouillées. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend la chose intéressante. Alors, vous voyez un petit peu, on est obligé de contourner pour essayer de comprendre ces figures-là, comment est-ce qu'elles peuvent naître, etc. Parce que vous avez d'un côté les vieilles traditions des déesses mères, vous avez aussi d'un coup des civilisations autour de l'animal qui vont changer complètement, puisque le rapport aux animaux va changer, hein, c'est un rapport d'accompagnement, hein, de proximité. Alors là, on le voit bien, hein, on le voit peut-être déjà dans les sites de Göbekli Tepe, puisque là, vous avez une idée de tribu, qui vont élever des animaux, mais ont un rapport à l'animalité qui est plus vaste que le simple élevage, puisque leurs totems sont des animaux qui ne sont pas élevés, ça peut être des animaux sauvages, etc. Donc ce rapport aussi entre l'animal que l'on peut dompter et l'animal sauvage, c'est une chose qu'on va retrouver très 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 longtemps, hein, jusque dans l'art grec, et très longtemps, et ça c'est intéressant. Comme s'il y avait deux types d'animalité, ça c'est presque un thème récurrent, hein, une positive, une fascinante, sauvage, etc. Et là, la figure justement de Chataluyuk, elle est peut-être un petit peu à la croisée des chemins justement là-dessus. Alors, rappel justement aussi sur le pastoralisme, plus ancien, pour vous montrer qu'effectivement c'est une période de l'humanité. Alors, pour différentes raisons, elle est un petit peu oubliée, y compris dans notre culture, dire franco-européenne centrée, c'est qu'on a très peu de traces de cette période-là. On a très peu de traces de cette période-là. Alors, sans doute, il y a une, je crois, glaciation, hein, à peu près vers cette époque-là, en Europe, du Nord. Donc, si vous voulez, vous avez des sites entiers qui ont été sans doute engloutis. Hein. Et puis, vous avez aussi une modification qui est assez nette du niveau de la mer, notamment, par exemple, la Manche, etc., hein, puisque le niveau de la mer a énormément monté, là. Parce que je me gourre, en tout cas, la mer a beaucoup monté, par exemple, en Méditerranée et dans la Manche, et ce qui fait que beaucoup de peuples qui étaient sans doute assimilables à ce qu'on appelle le Mésolithique, hein, donc qui n'étaient pas forcément des chasseurs-cueilleurs, qui étaient semi-sédentaires aussi, mais étaient souvent au bord de mer, hein, puisque, et donc vivaient de pas de la chasse d'animaux majeurs, mais effectivement, de petits gibiers, de petits animaux étaient sans doute semi-sédentaires dans des sites relativement protégés. Par exemple, toute la côte bretonne a perdu, je ne sais pas combien de mètres, hein, donc c'est des hectares de traces qui ont disparu, des milliers d'hectares, puisque hein, si vous regardez même, ça m'amuse de regarder cette carte, je suis fasciné par ça, c'est le fleuve Manche, hein, mais ça c'est à peu près une période humaine, hein, entre les deux glaciations, je crois. La Manche était effectivement une sorte de fleuve, hein, et on peut imaginer que c'était une très 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 grande plaine, relativement fertile, et que donc tout ce qui est actuellement Bretagne et Grande-Bretagne était des collines, etc. Mais donc toutes ces parties-là ont été aussi complètement perdues. Il faudrait faire des fouilles sous-marines, et on ne ferait pas beaucoup de choses. Donc on a un grand trou, nous, dans notre culture, et comme longtemps les recherches et les chercheurs ont été faites sur nos territoires, on a un peu oublié. L'Afrique du Sud, c'est pareil. C'est pas longtemps qu'on s'est fouillé. Et tout ce qui est désert, Tassili, Afrique du Nord aussi, souvent ça a été méprisé. C'est très difficile d'accès aussi, parce que c'était des endroits qui étaient fertiles. La preuve, c'est qu'il y avait des grands bovins. Alors ça, c'est dans l'Afrique du Sud, dans le Drakensberg. Hein. Là aussi, dans lequel vous avez encore la figure du bovin. Et ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Et là, toujours accompagné d'humains. Et puis, là encore, hein, tout ça, c'est des peintures du Drakensberg. Alors, difficile à voir, elles sont très, très difficiles à prendre en photo, elles sont souvent dans des endroits inaccessibles, mais ce qui est important aussi, c'est de voir le naturalisme, c'est-à-dire que plus on se rapproche de l'animal à ce moment-là, plus on le représente, hein, comme un animal que l'on connaît très bien, une complicité, une proximité, y compris au niveau de l'observation. Alors, les hommes, eux, sont moins bien représentés, encore que ici, on le voit toujours dans le dragon. Ça, c'est dans le Tassili. Hein, vous avez encore une figure ici humaine avec des animaux, alors, des biquets, des chiens sans doute, etc. Et toujours cette espèce de vache, ce bovidé absolument remarquable, très très grand. Donc, c'est assez marrant de voir que de Turquie jusqu'en Tassili, jusqu'en Afrique du Sud, vous avez à peu près à la même époque, vous avez cette espèce de figuration commune. C'est pour ça qu'on peut parler actuellement de ce style un peu autour du bovidien. Alors, vous avez un autre style qui est à peu près contemporain. Alors là, c'est en Arabie Saoudite, je crois, c'est le style bubalin. Bubaline, je ne sais pas exactement pourquoi. Alors là, c'est gravé, mais on va retrouver là encore des petits chiens, hein, donc déjà une domestication, un personnage avec des arcs. Alors là, c'est un âne, hein, vraisemblablement. Dans le style bubalin, vous avez encore des figures humaines avec des chiens. Là, vous avez un bovin. Là, vous avez encore un grand bovin. Ouais, à peu près, c'est 7000 ans avant Jésus-Christ aussi. Alors, ça a dit aussi que les modifications climatiques, hein, puisque c'est des endroits qui, alors, ont été totalement desséchés, dont abandonnés, vraisemblablement, mais c'est assez clair que il y a une humanité qui évolue globalement vers, vers ce genre de choses. Alors, là, on voit encore, hein, cette fois-ci, c'est encore un énorme bovin avec des cornes remarquables, et un humain qui est ensuite en train de s'en approcher, ou de le traire, ou de le capturer. Et là encore, une figure avec un chien, hein, et un arc. Et là encore, le style Bubalin, avec ici des sortes de gazelles et des animaux à cornes. Et là encore, hein, une sorte de buffle. Ici. Et là, par contre, c'est un éléphant. Alors, un éléphant, hein, que l'on voit ici, donc, il reste une fascination quand même pour certains animaux, mais qui... Alors, un rhinocéros, donc on trouve aussi quelques animaux sauvages, sont non domesticables. Et là aussi, toujours, alors ça c'est dans le Tassili, hein, mais on considère qu'il y aurait le même style. Une girafe ici, alors la girafe n'est pas totalement domesticable, mais c'est assez beau de voir le fait de s'approcher de l'animal et pas uniquement de le tuer. Alors ce rapport, à, on va dire, au vivant, hein, c'est un rapport qui est sans doute, alors peut-être que c'est une surinterprétation, plus doux, hein, plus doux, plus respectueux l'environnement, enfin de l'environnement, des rythmes, puisqu'effectivement, hein, les troupeaux, ils sont obligés de, comme ils n'ont pas l'agriculture, ils sont obligés quand même de suivre le comportement des troupeaux par rapport au rythme, aux naissances et à la nourriture et aux points d'eau. Donc c'est ce principe d'accompagnement, hein, ce principe d'accompagnement et non pas de domination et pas de possession, on va dire, définitive. Parce que l'idée ne vient peut-être sans doute pas de posséder complètement. Alors l'idée de posséder, hein, et de soumettre, c'est quelque chose qui justement semble ne pas être, alors c'est que des hypothèses, hein, semble ne pas être totalement développé. Hein, puisque, mais on peut imaginer que la représentation féminine majeure revient aussi sur l'idée que on est bien loin de la soumission des autres à une puissance. C'est-à-dire que les figures féminines ici sont les figures bienveillantes. C'est pas un dieu terrible, ni vengeur, ni sanglant, ni possessif, ni moral. C'est une divinité ou une figure récurrente, bienveillante, pleine de vie, pleine de promesses, y compris dans les attitudes que l'on voit ici, des attitudes presque naturelles, hein, tenant les simples, même la manière dont les genoux sont posés, un peu pliés, quelque chose d'assez émouvant au niveau de l'approche de la vie, hein, et on le voit à peu près partout. Alors, ces figures sont puissantes sans être... En général, surtout les premières figures avec des attributs de violence. Hein. Là, on les voit assises, presque comme une position de sagesse. Alors, là, on va s'écarter un peu de chaque individu pour aller voir un petit peu les variations autour dans les choses plus récentes de ces figures féminines, mais qui sont récurrentes et dans lesquelles on va trouver beaucoup de points communs avec quelques différences stylistiques, comme par exemple là, les gravures. Alors, est-ce que ce sont des tatouages ou des robes ou des vêtements, avec quelques marquages stylistiques, un peu de recherche formelle comme ici. Alors ça c'est en Bulgarie, hein, déesse mère en Bulgarie. Ça c'est déesse mère anatolienne toujours. Ça c'est une déesse mère Tel Alaf, donc là encore Tel Alaf, je ne sais pas où c'est. En Syrie, oui. Là, encore Tel Alaf. Là, encore en Syrie. Alors là, on retrouve des signes. Non, ça c'est autre chose. Il faudra que je retrouve des documents là-dessus, parce que ça c'est un truc bizarre. C'est Aïn Ghazal, c'est en Jordanie, à la frontière d'Israël contemporain. C'est très ancien, 7000, à peu près 7-6000 avant notre ère. Et une figure stupéfiante qui dénote complètement dans toute la lignée, etc. Alors vous avez des stylisations comme celle-ci, que l'on va retrouver. Alors. Ça, c'est Cucuténis en Roumanie, donc vous voyez, c'est quelque chose qui s'étend, hein. Il y a tout Tigre et l'Euphrate, et puis ça va être aussi une bonne partie des Balkans, et ça va jusqu'en Sibérie, à peu près. Toute cette espèce de grande culture, répartition de silhouettes et de figures. Ça, c'est roumaine aussi. Ça, c'est à Cucuteni. Là encore, Cucuteni. Ça, Cucuteni. Alors, à Cucuteni, ils en ont trouvé beaucoup. Hein. C'est un site en Roumanie. Au point même, comme il y avait des petits meubles, ils se sont demandé si c'était pas aussi des poupées. Enfin, vraiment des petits Playmobil. Ce qui n'est pas exclu, d'ailleurs. C'est pas exclu qu'il y ait aussi des figures qui soient des figurines de poupées. Pas forcément sacrées. Parce que on les voit comme ça. On les voit parfois en cercle. Alors, évidemment, vous allez voir aussi des statuettes de femmes et enfants, maternité. Ça, c'est en Serbie. Okay. Là, vous allez... ça, c'est Russie. Alors, celles-ci aussi sont très élégantes, parce que d'un coup, il y a une diversité de ces figures féminines, mais c'est toujours des figures féminines. On ne trouve quasiment pas de figures masculines. Ça, c'est le premier style égyptien, enfin, de la haute antiquité égyptienne, avant, on va dire, ce que l'on connaît de l'Égypte. Hein. Et là, il y en a énormément de ce type-là. Hein. Et c'est ce qu'on appelle le style Nagada, que l'on voit ici, surtout, représenté comme ça, avec les bras relevés, alors, de façon comme une danse, etc. Ce qui est intéressant dans toutes ces statuettes aussi, c'est qu'on, même si ce qui est célébré, peut-être, c'est une sorte de rapport avec la nature, évidemment, il y a quand même des recherches stylistiques, hein, de l'épure, on n'est pas dans le naturalisme en même temps, donc on est dans l'expression sans doute d'une volonté plus culturelle, plus artistique, hein, et moins de fascination, comme on le voit ici. Encore, c'est toujours Nagada. Ça, c'est encore Égypte pré-dynastique. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, alors ça, c'est Turkménistan. Hein, donc, vous avez... donc, avec... encore, avec une technique différente, mais on trouve même jusque le triangle pubien ici, etc. Très subtil, avec les tresses, les coiffures, les cheveux, donc c'est vraiment assez remarquable. Voilà. Là, c'est un peu plus simple, toujours Anatolie, je dis. Alors, ça, c'est de l'Indus, donc on va aller même... Alors, on pourrait fouiller, alors on a trouvé même jusqu'au Japon, hein, quand même, des figures comme ça, c'est-à-dire que là, après, tout ce qui est Inde, Chine, etc., c'est encore certainement l'archéologie là-dessus est certainement très très riche à développer. Donc, mère et enfant, qu'on va retrouver assez souvent, les vallées de l'Indus, hein, toujours mère et enfant. Là encore, papa, mère et enfant, ça c'est en Ukraine, ça c'est sur l'Euphrate, ça c'est encore sur l'Euphrate. Alors celles-ci, les Cyclades en Grèce, qui sont très connues, mais en fait qui se rattachent finalement, on voit bien, à toute cette grande tradition, mais assez stupéfiante, hein, de figurines féminines. Ça aussi, c'est toujours Cyclades, mais une version très, très particulière. Ça, c'est celles qui sont les plus connues, hein, peut-être, avant, on va dire, l'art grec, archaïque, et puis, pas archaïque, mais... antique, celle des Kouros, etc. Là encore, une épure très fine. Macédoine, Chypre. Et là, on arrive, alors évidemment, en Crète, hein, le Knossos, etc. Aussi, c'est intéressant, c'est quand même 2000 avant notre ère. Et là, vous avez aussi d'abord le culte du taureau, et vous avez aussi des palais qui sont aussi à étage. Donc on a des choses qui sont assez communes de ce point de vue-là, dans pas mal de situations. Alors, là, je reviens maintenant, parce que c'est assez complexe de varier, sur cette figure-là, toujours celle de Chataliouk. On voit bien qu'elle est associée au bovidé, hein, dans la pièce, et en même temps au bête sauvage ici. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc ça, c'est assez clair. Et c'est une figure donc du pouvoir aussi. Alors toutes ces figures féminines, et c'est là en fait... où je voulais en venir, toutes ces figures féminines qui sont faites positives, qui sont récurrentes, qui correspondent à un type de civilisation ou un mode de vie, c'est pas tellement la question de l'urbanité ou du village ou de la fixité qui est posée, c'est plus le rapport au mode de nourriture et mode d'approvisionnement, etc. Mais ce que l'on considère maintenant, et c'est un petit peu l'introduction sur ce que je vais montrer par la suite, ce que l'on peut considérer par la suite, c'est que à partir du moment où on va commencer, plus on va commencer à posséder les terres, plus on va commencer à posséder les terres, à posséder y compris les graines, à posséder les animaux, avec, et on va avoir l'idée de posséder le vivant. Posséder le vivant et donc soumettre des êtres vivants à un pouvoir, à une possession, et donc à des rivalités. Et il est vraisemblable que, à partir de là, il ait commencé à avoir une hiérarchie dans le vivant, une hiérarchie entre êtres humains, et par exemple, ceux qui ont le droit d'accéder à tel ou tel terrain, ou pas. Ceux qui ont le droit de posséder tel ou tel animal, ou pas. Et puis ensuite, des êtres humains qui vont être associés à la mise en œuvre, par exemple, avec l'agriculture du territoire. Donc ceux qui vont y travailler. Et puis ceux qui vont récupérer les graines, les bénéfices, etc.
Ah, dans tout ce qui est.
Comment ?
Le capitalisme
n'est là. Bah, en tout cas, la possession. Et toujours est-il que cette idée-là va naître aussi, sans doute, on va dire, l'âge de fer, hein, l'âge de guerre, l'âge de bataille, hein, où les êtres humains vont posséder leur territoire, se défendre contre les vols, les rapides, etc., se mettre en concurrence, alors que dans tout ce qui était pastoral, il y a plutôt toujours cette idée, bah, chaque répartition d'un territoire, un troupeau donc qu'on ne possède pas mais qu'on accompagne et dans lequel, y compris les figures féminines, sont importantes. Les figures féminines sont importantes. Et puis, hommes ou femmes, sachant très bien s'occuper des animaux, notamment des bovins. Et puis, l'espèce de sérénité des bovins, c'est aussi, on va dire, un monde. Alors, ils sont à la fois puissants comme les taureaux, mais aussi bienveillants comme les vaches qui donnent le lait, qui arrêtent le petit, etc. Donc vous avez aussi une idée sans doute autour du bovidé qui n'est pas du tout la même que celle qu'on va retrouver avec l'idée de la sédentarisation et des graines. Alors cette idée aussi de posséder les terres et ceux qui vont travailler, on va avoir la naissance de l'esclavage qui va commencer à naître ici. Je ne crois pas que dans les sociétés pastorales, il y ait des esclaves. Par exemple, d'abord c'est des gens qui se déplacent, donc c'est plus difficile à conserver, etc. Le moyen de se ravitailler, il est à peu près collectif, il est à peu près partout, donc c'est certainement moins hiérarchisé. Et puis, vous avez donc la naissance de catégories comme l'étranger, comme l'esclave, comme celui qui travaille, et aussi vraisemblablement la femme. Hein, il va y avoir une sorte de division dans la hiérarchie humaine, et vraisemblablement, la figure féminine va être de plus en plus réduite. Et ce que l'on peut voir en gros, alors je simplifie à gros traits, ce qu'on peut voir en gros depuis Châtelluc et de manière très dégressive, Châtelluc à peu près 8000, jusqu'à la naissance, on va dire, des grands mythes gréco-grecs et puis bibliques, qui sont contemporains, hein, eh bien c'est effectivement le déclin progressif de toutes les figures féminines. Et leur remplacement progressif, de manière très très claire, et là on peut être conjoint, par les mythes masculins, que ce soit dans l'Antiquité grecque ou dans la Bible, à peu près, ça commence à peu près vers 1500 avant J.C., hein. Donc, si vous voulez, vous avez les cultures, que ce soit l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, ou que ce soit la Bible, c'est à peu près à ce moment-là que ça se situe. Et là, vous avez une appropriation progressive de toutes les figures divines par des figures masculines et une manière de déconstruire et de défaire progressivement toutes les figures féminines. Hein, comme si on allait détruire un pouvoir féminin. Alors, je vais... En fait, j'ai pu vous montrer ça plus vite que ce que je ne pensais. Alors, d'ailleurs, ça, on va la voir ici. Alors, malgré tout, puis avant de passer juste à la suite, vous avez quand même des persistances. Parce que les persistances des figures féminines vont être assez claires. Justement, c'est ce que j'ai choisi comme site, par exemple en Égypte et en Grèce, hein, on va le voir de manière assez nette. Parce qu'on ne peut pas éliminer comme ça, si vous voulez, des millénaires de... Alors j'exagère un peu, on pourrait presque dire un monothéisme féminin. Hein. On ne peut pas éliminer un monothéisme féminin qui dure depuis des millénaires, comme ça, qui repose sur des mythes, des archaïsmes, des traditions, qui est ancré dans presque tous ces territoires-là. On ne peut pas le supprimer comme ça. Donc vous allez avoir, et puis en plus, c'est quand même la moitié de l'humanité. Donc, si vous voulez, vous allez avoir une persistance, parfois cachée, parfois détournée, des mêmes mythes, mais qui vont être cette fois-ci amortis, divisés, séparés, mais qui, comme une sorte de source, ressurgissent assez régulièrement. Alors, quelqu'un en a fait un roman, par exemple, comment ça s'appelle ? Peut-être Da Vinci Code reprend un petit peu ça, mais Marie-Madeleine, Marie, etc. On va retrouver des scènes qui sont assez intéressantes. Mais voilà. Alors, dans la... Là, vous voyez dans ces tableaux synoptiques assez intéressants et chronologiques, à l'âge du bronze, vous avez effectivement toujours des figures féminines. Alors, on va voir arriver aussi les déesses Isis, les déesses égyptiennes, les déesses grecques aussi, hein, qui vont se maintenir. Hein. Et puis aussi celle-ci, là, qui va être de plus en plus intéressante, sur laquelle je reparlerai quand on verra la déesse grecque Cybèle. C'est cette figure assez stupéfiante qui a plein de noms. Mais en fait, c'est la même. C'est Ishtar, Inanna, Astarté, Tanit et Lilith, et même d'autres encore, hein, qui est en fait une sorte de déesse primitive positive. Dans la Bible, elle sera considérée comme la première Ève ratée, c'est Lilith. Hein, et puis ensuite, dans certaines figures, elle va quand même se maintenir comme une figure positive, par exemple en Tunisie, sous la figure de Tanit, hein, et etc. Alors, vous allez donc... Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus. Puisque, alors, chose, alors je vais zoomer un petit peu, parce que, chose assez claire d'ailleurs, c'est que on la retrouve d'ailleurs toujours souvent assise sur un trône, sur un char, avec des dragons, des bêtes sauvages qu'elle domine, hein, ça on y reviendra assez souvent, ici encore, elle est debout sur, donc, avec Châtelluc, elle était aussi sur un trône avec des léopards, et ça c'est quelque chose que l'on trouve assez souvent, y compris dans certaines figures égyptiennes, où la voyez presque toujours, hein, dominant et domptant des figures de bêtes sauvages, hein, de bêtes sauvages de type lion, etc. Alors, cette figure-là que l'on va retrouver, alors là encore, hein, dominant le lion, hein, encore assis sur un trône, encore sur un trône, etc. Alors vous avez la combinaison de plusieurs figures qui sont complexes et qu'on voit surtout dans Châtelluc, c'est à la fois des figures de maternité, mais à la fois des figures de force, hein, de dompter des animaux féroces, etc. Hein. Et puis, on verra aussi plus tard des forces associées, notamment à Ishtar, Inanna, Astarté, etc., et qu'on verra plus tard, y compris chez Marie, etc. C'est le soleil et la lune, alors là on voit le soleil et parfois la lune. Hein. Le soleil et la lune, c'était aussi le côté céleste que l'on va trouver dans ces figures-là. Alors, voilà un petit peu les points de départ et les pistes sur lesquels je voulais vous amener. Alors, qu'est-ce que... Alors, là encore, dans les figures de transition, parce que je voulais montrer les figures de transition, une figure qui est très intéressante et qui a été trouvée aussi récemment, Atel Alaf, donc c'est pas égyptien, hein, mais on a presque encore cette impression, qui est plus récente, hein, celle-ci à peu près 2000 ans, la voilà ici, une figure encore de déesse trônante, hein, figure cubique, et qui se retrouve elle aussi dans une sorte d'ultime variation de la déesse de Châtelluc. Et voilà le site dans lequel elle a été trouvée. Hein. Alors, ça c'est juste au niveau de l'archéologie. Pourquoi c'est aussi... on est en pleine... Là on est en pleine... Il y a des choses qui ne sont pas claires non plus, parce que une bonne partie des archéologies ont été faites fin 19e, début 20e. Et la guerre 14 arrive. La guerre 14 arrive, alors en Turquie, je ne vous dis pas, on sait très bien la situation, l'Arménie, plus la division totale de tout cet espace-là, plus la division de tout le Proche-Orient, l'Empire turc, en chasse gardée des Allemands, des Anglais, des Français, etc., avec des rivalités, etc., plus la tradition musulmane là-dessus, fait que tout ce qui se passait d'abord, il n'y a quasiment plus d'archéologie, tout le passé pré-islamique, etc., est un peu négligé, et puis c'est des zones dangereuses, difficiles, etc., dans lesquelles ce n'est pas du tout une priorité que d'aller faire l'archéologie. Maintenant, ça fait quelques années que c'est redevenu intéressant, mais ça reste quand même des zones extrêmement difficiles, de conflits, etc. Donc on est aussi dans une situation, même actuelle au niveau de l'archéologie, qui est très complexe, hein, parce que ça ressemble, c'est une très très vieille photo, hein, qui date donc d'avant 14, avant la guerre, et qui vont l'état des fouilles, mais des fouilles qui ont été souvent interrompues. Donc, si vous voulez, vous avez aussi dans... Et puis, il y a aussi une chose, hein, qui est assez claire, c'est que toutes ces fouilles-là dérangent tout. Dérangent tout au niveau des catégories. Donc, on ne sait pas très bien, toujours, quand vous regardez les interprétations sur Châtelluc, Göbekli Tepe, etc., c'est un peu bizarre, parce que tout d'un coup, on avait des sortes d'explications qui étaient assez claires, hein, sur... Et puis aussi, dans notre culture occidentale, eh bien, on ne jure que par... on dit, il y a la Bible, et puis il y a les mythes grecs, puis avant, bon, il y a peut-être l'Égypte, mais l'Égypte, finalement, c'est la même chose. Alors que, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs bientôt, l'Égypte, c'est quand même un peu différent. Bon, ça, c'est des morceaux de tissu. Alors, juste, voilà une sorte de tableau aussi, voilà, qui est en anglais, hein, en français, on ne trouve pas grand-chose, sur, en gros, une sorte de répartition dans le temps et dans l'espace, justement, de alors, Goddess Timeline, hein, donc cette idée d'une divinité féminine que l'on va retrouver, alors très ancienne, alors, effectivement, les plus anciennes, alors celles que je vous ai montrées ici, hein, qui sont de 30 000, hein, certaines figures, alors même parfois des figures très symboliques de vulve, etc. Et puis, donc avant Lascaux, période de Lascaux, hein, et puis, toutes certaines que je vous ai montrées. Là, on voit aussi toutes les figures, alors ça c'est du, on va dire, du Bovidien, du Mésolithique. Hein. Et là, on va voir justement celle qui nous intéresse. En gros, bah, ici, c'est un lieu, etc. Et puis, pour les Cyclades. Hein. Et là, on voit progressivement, hein, une sorte de perte de la quantité d'abord d'œuvres, alors qu'il y a de plus en plus d'humains, de plus en plus de sculptures, de plus en plus de traces. On voit une perte de cette figure, en gros, une figure de déesse féminine, hein, et quelques résurgences, hein, discrètes, plus ou moins cachées ou déformées, hein, notamment Cybèle qu'on va voir, etc. Donc voilà, en gros, un petit peu une histoire qui n'est pas inintéressante. Alors parfois, elle est un peu romancée, parce qu'elle a souvent aussi été négligée, on va dire, par les archéologues ou les historiens d'art, hommes qui avaient des œillères, etc. Certains archéologues ou certaines archéologues forcent un peu le trait en disant c'est la déesse mère, culte, etc. En fait, c'est des interprétations. Toujours est-il qu'il y a quand même récurrence de faits, il y a quand même des cohérences, y compris au niveau des comportements, du mode de vie, du style représentatif, etc. Alors, voilà un petit peu les pistes. Hein, et en tout cas, oui.
Tu disais que ces premières statuettes, elles dataient de 30 000 ans, à peu près 10
la,
000 ans.
La toute première, attends, la toute
première. Statuette de femme.
La toute première, 30 000.
Bah alors, nous, ça fait 2 000 ans qu'on a les statuettes d'hommes, hein. Qu'est-ce que vous faites?
Ah non, non, parce qu'il y a une statuette d'homme, celle qu'on a trouvée qu'à 15 000 ans à peu près.
Ah bah tu
vois, 14 000 ans, mais, non, mais effectivement.
C'est un petit bras, hein, petit bras.
Effectivement. Donc, on peut très bien, c'est net, hein. De toute façon, c'est très très clair. Et d'ailleurs, la violence, on va voir, la violence avec laquelle est brisée l'image féminine dans les traditions grecques, hein, et bibliques. Biblique, c'est pas ça, mais il n'y en a plus. Il n'y en a même pas. Après, c'est le christianisme qui va pas être en réhabilité avec Marie. Mais sinon, même dans la Bible, il n'y a quasiment pas. Ou alors, c'est les femmes deux, épouses deux, etc. Mais dans la Bible, il y en a quasiment très, très peu. Hein? Donc, ça va te plaire, ça.
Pénélope.
Je dis ça. Pénélope. Alors,
Gilles. Ils ont toujours un mauvais comportement, d'ailleurs.
Mais fidèle.
Alors, justement, j'arrive ici. J'avais pas prévu, mais comme c'est pas une analyse comme d'habitude de ce que je fais, et puis qu'il y a, les documents sont un peu plus, je sais pas exactement combien de temps ça me prendrait, mais donc j'ai commencé directement le suivant avec les statues couples égyptiennes. Alors pourquoi les statues couples égyptiennes, c'est assez aussi stupéfiant et intéressant. Et pourquoi est-ce que justement on peut dire qu'en Égypte, c'est un cas particulier, et parce que ça me ramène à cette histoire de la possession aussi, possession de la terre, etc. Ben c'est qu'en Égypte, il n'y a pas de possession privée. Et en même temps, ce ne sont pas des éleveurs, ni des pastoraux, des mouvements pastoraux, on va dire, etc. Qu'est-ce qui est la caractéristique de l'Égypte ? Ben c'est que c'est le pharaon qui possède tout. Donc en fait, tout le monde, enfin, c'est une propriété collective, en fait. C'est une propriété collective, il y a une personne qui symboliquement possède la terre, mais ça veut dire que c'est une association collective, et il n'y a pas un Égyptien qui peut dire « ce bout de terre est à moi » ou « cet animal est à moi », toi tu n'as pas le droit. Ça appartient au pharaon. Ce qui fait que d'une certaine manière, vous n'avez pas d'appropriation privée du vivant, puisque ça fait partie de la collectivité en fait, symbolisée par, on dit pharaon, mais en fait c'est le couple pharaon. D'abord c'est le couple pharaon. La tradition égyptienne, alors juste aussi, regardons un petit peu, puis on continuera de toute façon la semaine prochaine. Regardez les statues couples. Quand on dit les statues couples, d'ailleurs, si vous allez au Louvre, il y en a plein qui sont très belles. Hein. Alors, l'Égypte, cette fois-ci, l'Égypte ancienne, hein, c'est à peu près 3000 jusqu'à Cléopâtre, etc. Cléopâtre, d'ailleurs, hein, une figure féminine importante. Les statues de couple, hein, on va les retrouver après, réparties sur toute l'Antiquité égyptienne, donc c'est important. Mais si vous voulez, alors l'Égypte va avoir aussi un rôle fondamental, par exemple, en termes de leur climat. Je ne sais pas exactement d'où, comment une bonne partie du Tassili s'est asséchée. Vraisemblablement, on peut imaginer qu'une bonne partie des peuples qui étaient là sont allés vers l'Égypte. L'Égypte, au moment où peut-être le Tigre et l'Euphrate aussi se sont peut-être desséchés, je ne sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que... on peut imaginer aussi que ce sont des peuples qui ont migré progressivement. L'Égypte devient quand même un des lieux les plus fertiles grâce au Nil, qui est une sorte de complément permanent contre la sécheresse. Par contre, ce qui est très clair, cette fois-ci, c'est plus le modèle, on va dire, bovidien de l'animal qui va dominer, même si on va le retrouver, c'est le domaine de la complémentarité des principes, qui est très clair en Égypte. Alors, ce n'est pas mariage pour tous, un papa et une maman, mais il y a un peu de ça, j'exagère. C'est qu'en Égypte, il n'y a pas... mais on termine avec ça. Vous avez la sécheresse, vous avez la chaleur, mais rien ne vit s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'eau du Nil. Et l'eau du Nil toute seule, s'il n'y a pas la chaleur, s'il n'y a pas la terre, ça ne fait rien. C'est la rencontre de deux principes qui va permettre la vie. Hein, on sait très bien sur le Nil. Et on peut imaginer que pour les Égyptiens, d'abord, il n'y a pas de propriété. D'abord, il y a une nature toute puissante, mais qui, séparée, devient dangereuse, et unie et complémentaire, permet la vie. Et donc, ce qui est caractéristique de l'Égypte, c'est le fait de révérer chaque apparition de la vie. Tout ce qui naît mérite d'être conservé. Alors, on verra plus tard, la prochaine fois, tout ce qui naît mérite d'être conservé, y compris la parole, par les écritures, y compris les figures, y compris les corps qui sont nés par les momies, etc. Et donc, vous avez le principe de vie et de naissance qui va naître de la rencontre de deux principes complémentaires. Et les couples, les statuts couples vont être sans doute l'éclairage de ceci. Et puis là, évidemment, il n'y a pas d'hierarchie. On ne peut pas mettre un principe au-dessus de l'autre, puisqu'ils sont complémentaires. Et c'est pour ça que c'est une des dernières civilisations à avoir autant de place pour le masculin et le féminin de manière très très claire. Ça soit assez évidente.
Elle est quand même derrière
l'homme. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Elle le tient. On verra. Hein, on verra ici, là, dans celle-ci, etc. Voilà. Et alors, on verra la prochaine fois, effectivement, la richesse de l'Égypte. Alors, vous avez vu, je brasse des millénaires à la louche. Si vous avez des documents, moi, je suis preneur, parce que ce sont des périodes aussi en pleine friche. Hein. Ah ben, la prochaine fois, c'est...
C'est dans 3 semaines.
Ah, dans 3 semaines.
Bah oui. Ah, il y a 2 semaines de congé. Hein.
Ah oui, il y a 2 semaines de congé, oui, dans 3 semaines.
Oui, oui.
Ben, j'ai le temps d'essayer de retrouver des documents encore pour revenir en arrière. Certains d'entre vous connaissez les sites de Turcs, là ?
Non.
Çatalhöyük et Göbekli Tepe, vous ne connaissiez pas ?
Non.
Bon, ben, déjà, au moins, j'ai servi à ça.
On découvre.
Vous découvrez.